La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour une nouvelle Covidienne. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire un tour de l'actualité locale et ce soir on va parler transition écologique à travers les métiers qui s'y dédient et les jeunes qui s'y impliquent. Léo s'est entretenu avec Claire Pétréau, ancienne lycéenne de Segré qui, après un master en sciences politiques et être passée par la ruche qui dit oui, a créé les Pépites Vertes. Les Pépites Vertes, il s'agit d'une chaîne YouTube et d'un site internet pour guider les jeunes intéressés par les métiers en lien avec la transition écologique à la sortie de leurs études. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose que l'on découvre ça ensemble tout de suite.
On en entend parler partout dans les journaux, à la télé, au sein des gouvernements, en France et en Europe. La transition écologique suscite des débats et figure comme l'une des grandes préoccupations du XXIe siècle, et les générations les plus jeunes l'ont dans l'ensemble bien compris, en s'engageant dans des corps de métier liés à cette thématique. C'est le cas de Claire Pétréau, ancienne étudiante de Sciences Po Paris, avec qui on va parler de ces sujets. Bonjour Claire.
Bonjour.
Dans un premier temps, je pense qu'il est important de bien comprendre de quoi on parle. Comment est-ce que tu pourrais définir la transition écologique ?
C'est une question qui est importante, effectivement, de savoir de quoi on parle. On parle de transition, parce que je pense que quand on parle de transition, on parle d'un point A et on a envie d'aller vers un point B. Donc, on a envie d'être en mouvement et d'un changement, surtout. Pour moi, la transition écologique, c'est constater aujourd'hui la finitude des ressources, notamment le crack de la biodiversité et tous les enjeux liés à la protection de la planète et aux vivants, bien les prendre en compte et ensuite se mettre en action, et c'est là qu'on est en transition, pour protéger et éviter la catastrophe en termes d'impact écologique pour pouvoir proposer à toutes les espèces vivantes un futur plus durable, plus résilient et meilleur pour toutes les espèces qui existent sur la planète.
C'est un terme assez court, mais finalement qui recouvre beaucoup de champs à explorer. On va revenir un petit peu sur ton parcours, si tu veux bien. Pourquoi tu t'es orientée vers Sciences Po Paris et à la fin du lycée ?
Alors moi, je suis originaire de Segré et j'ai très vite été engagée de manière citoyenne pour ma petite ville ou pour mon club de handball ou même pour mon lycée. Donc en fait, comme dès mes 15 ans, j'étais déjà très engagée dans le bénévolat, je me suis rendu compte que j'aimais bien me sentir utile. Donc au départ, c'était surtout à un niveau bénévole. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux formations qui pouvaient m'aider éventuellement à en faire mon métier. Et du coup, Sciences Po faisait partie des écoles qui pouvaient me permettre de me former aux enjeux politiques, sociaux, économiques, pour pouvoir avoir des cartes en main et agir à un niveau professionnel. Alors au tout départ, moi, mon objectif, c'était plutôt d'être journaliste. Donc je suis rentrée à Sciences Po en voulant vraiment devenir journaliste. C'est un truc que j'ai un peu perdu au fur et à mesure de ma formation. Mais en fait, j'ai retouché au fur et à mesure de mes expériences, à la fois en stage et à la fois dans mes lectures, etc. Et du coup, aujourd'hui, notamment, on aura sûrement l'occasion de revenir sur les Pépites Vertes, mais j'essaye de revenir un peu à ce sujet de journaliste et de mettre en lumière des gens qui, je pense, font le bien. Mais à la base, c'était vraiment une vocation un peu aider la société et faire ma part, parce que je pense qu'on bénéficie de beaucoup de choses, notamment de l'école et de la République en général. Du coup, j'avais envie de rendre à mon échelle, et c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po.
Dans quoi est-ce que tu as fait le bénévolat dont tu nous parlais à l'instant ? Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait émerger finalement en toi ta conscience écologique ?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que encore une fois, si on va revenir sur les termes transition ou chemin ou changement, le tout début de mon engagement, il était plutôt social. Moi, j'ai été par exemple conseillère municipale des jeunes de Segré, j'ai aidé à animer la ville pour les jeunes. J'ai été aussi bénévole du Vox Tour, donc on a fait le Tour de France pour aller sensibiliser sur les élections présidentielles en 2017. J'étais bénévole dans mon club de hand, c'était plutôt pour aider le club à vivre, donc au début c'était plutôt une conscience citoyenne. Et après, le déclic écologique, bon, déjà, faut savoir que moi, je viens de la campagne, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc j'ai toujours bien mangé des bons produits de la ferme, etc. Et j'ai un peu perdu tout ça quand je suis devenue étudiante, parce que je suis montée à Paris, et donc j'ai dû m'alimenter un peu autrement, un peu moins bien. Et du coup, c'est vraiment ce côté alimentation qui, pour moi, a été le déclic, puisque à la fois quand je suis passée aux États-Unis, où là, j'ai pas très bien mangé, par exemple, et j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas bon pour ma santé. Et ben après, j'ai continué avec un stage à la ruche qui dit oui, donc j'ai créé une ruche à Angers, c'est-à-dire que j'ai créé un circuit de distribution de produits locaux avec des agriculteurs. Et quand j'ai été visiter toutes les exploitations des agriculteurs, que ce soit des éleveurs ou des maraîchers ou des producteurs de miel ou autres, bah, je me suis rendu compte que derrière chaque achat alimentaire, il y avait trois grands enjeux. Le premier enjeu, c'est ma santé, moi. Donc, je suis vraiment rentrée dans l'écologie par l'envie d'être bien dans mon corps. Ensuite, c'est un deuxième enjeu qui est la personne que je rémunère. Est-ce que je rémunère un agriculteur ou est-ce que je rémunère une grande multinationale potentiellement polluante? Et puis, le troisième enjeu, c'est comment est-ce que est produit mon alimentation? Est-ce que c'est fait dans le respect des sols, dans le respect des écosystèmes naturels ou pas? Et du coup, c'est vraiment mon déclic, c'était d'aller visiter toutes les fermes et de me dire, bon, bah, en fait, cette porte d'entrée de l'alimentation, elle est super pour faire de la pédagogie auprès des autres gens, pour expliquer, parce que ça les touche à la fois eux et à la fois leur environnement.
Donc finalement, la conscience écologique que tu as développée, tu as essayé, c'est ce que tu viens de dire, de la faire partager à ton entourage et même, on va en parler plus tard, au sein de tes projets.
Exactement. En fait, ça, c'est un truc qui m'anime depuis le départ, c'est de communiquer sur ce que je fais, parce que j'adore raconter ce que je fais. Je pense que la force des médias et des réseaux sociaux est très grande quand on veut sensibiliser à des causes qui nous animent. Typiquement, si on doit reprendre le sujet de la ruche qui dit oui, quand j'ai lancé la distribution de produits locaux, ben, j'ai lancé la page Facebook, j'en ai fait parler dans les médias locaux. Et je pense que en racontant, j'avais aussi lancé un blog pour expliquer comment les agriculteurs produisaient l'alimentation. Et j'avais l'impression que comme ça, moi, je pouvais donner des informations aux gens pour qu'ils puissent ensuite avoir plus d'infos pour pouvoir faire leur choix de manière plus éclairée.
À présent, on va parler plus concrètement de tes deux activités principales du moment. Tu travailles actuellement chez Change Now, une entreprise qui lie le monde de l'entreprise à l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes activités et en quoi tes activités dans cette entreprise te permettent de traduire concrètement tes engagements écologiques?
En gros, Change Now part du constat qu'on a ce secteur privé, secteur de l'innovation, le secteur des startups, mais aussi bien des grands groupes, qui doit se réinventer justement pour, comme on le disait, accélérer cette transition écologique. Donc en gros, à Change Now, nous, on identifie tous les ans des entreprises, des innovations qui sont faites pour résoudre des problèmes du développement durable. Donc, ça, les 17 objectifs du développement durable qui ont été listés par l'ONU. Donc, ça va être l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, mais aussi des systèmes inclusifs, etc. Donc, on identifie des solutions. Donc, des solutions que vous connaissez comme Togo, qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça peut être aussi Yuka, qui permet de scanner les produits et savoir si c'est bien ou moins bien pour la santé. Voilà, des choses qui utilisent vraiment l'innovation. Souvent, ce sont des startups, mais pas forcément. Parfois, il y a des entreprises, des TPE, des PME qui innovent aussi à un endroit de la chaîne de valeur. Et puis ensuite, nous, notre mission, une fois qu'on a identifié ces solutions-là, c'est de les connecter aux ressources dont elles ont besoin, voire passer à l'échelle. On se rend compte que dans le secteur de la transition écologique, il y a moins de fonds, par exemple, il y a moins de financement. Bon, c'est quand même dommage parce que c'est un secteur qui doit être porté. Donc, par exemple, on va les connecter à des investisseurs, à des fonds. On va aussi les connecter à des grands groupes qui, eux, ont des problématiques et qui peuvent être solutionnés par les innovations. On va les connecter à des talents qui cherchent des métiers dans ces sujets-là, mais aussi à des décideurs locaux, politiques et publics. Et enfin, surtout, et là, c'est là que c'est un peu plus mon métier, à des médias. Puisque moi, dans ma casquette de directrice de communication, j'ai pour mission d'aller trouver des partenaires médias pour leur dire, bah voilà, on pourrait ensemble sortir une petite série d'articles qui présentent les meilleures solutions pour sauver la planète en 2-3 innovations clés. Donc voilà, moi j'ai un peu cette double casquette de faire parler de Change Now, l'entreprise et nos activités, mais aussi de faire connaître les innovations qui sont dans notre réseau.
Tu t'es engagée il y a combien de temps chez Change Now?
C'est le dernier stage que j'ai fait. Moi, j'ai fait beaucoup de stages, que ce soit à la ruche qui dit oui, à co-cycler aussi à Angers pour encourager une économie circulaire et faire du compost avec les déchets. et j'avais aussi été stagiaire au Drange, qui est un média. Et donc, le dernier stage que j'ai fait pendant mon Master 2, c'est à Change Now. Donc, ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai rejoint Change Now. Et là où c'est chouette, c'est qu'à la suite de mon stage, ils ont proposé de me recruter. Et du coup, depuis 2 ans, j'évolue au sein de l'entreprise avec des missions et des responsabilités qui augmentent chaque année. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir évoluer, de voir le projet qui naissait. Moi, je suis arrivée à Change Now, on était, je sais pas, 4 ou 5, et puis aujourd'hui, on est environ une quinzaine. Donc, c'est vraiment trop chouette de pouvoir grandir avec l'entreprise.
Est-ce qu'il y a des projets phares, un petit peu, qui ont permis de faire connaître l'entreprise, de la dévoiler au grand public?
Parmi les choses qu'on fait à Change Now, il y a un sommet qu'on organise tous les ans. C'est une des activités qu'on anime, mais c'est celle qui nous prend le plus de temps pour le moment. Donc en gros, l'an dernier, il y a presque pile un an, on a organisé le plus grand sommet des innovations pour la planète au Grand Palais à Paris. Et on a réuni 28 000 participants pendant 3 jours avec plus de 250 conférenciers qui venaient du monde entier pour parler de tous les sujets qu'on a évoqués ensemble. Mais ça pouvait aussi bien être des sujets de mode durable, ça pouvait aussi être nouveaux modèles d'éducation, etc. Et donc pendant 3 jours, le Grand Palais vibrait. Un peu comme c'était le cas pendant les expositions universelles, quand on rentrait dans le Grand Palais, on avait des airs. Et puis on se disait, par exemple, moi, mon sujet, c'est la mobilité. Je pense que sur la région Angevine, on connaît bien Pony Bikes. Et un Pony Bikes faisait partie des solutions qui étaient mises en avant dans l'exposition. Et on pouvait aller tester les innovations. Donc, il y avait une grosse partie démo, parce qu'on pense que faire tester les innovations et montrer et mettre en lumière, et non pas comme dans un salon où ça va être des kakémonos et des flyers, vraiment rentrer par le produit, ça fait partie des choses et des leviers qui vont pouvoir permettre de rendre accessible en fait cette transition écologique et la rendre concrète. Donc voilà, la plus grosse chose qu'on ait faite jusqu'ici, c'est ce sommet, en sachant qu'on le réorganise fin mai, aussi au Grand Palais, cette fois-ci dans le Grand Palais éphémère, puisque le Grand Palais est fermé pour rénovation. Et donc là, on sera sur le Champ de Mars, en bas de la Tour Eiffel, avec des événements qui vont de la Tour Eiffel à l'UNESCO, avec cette envie de dire... Ce sujet de la transition écologique, ça va être dans des lieux centraux et dans des lieux prestigieux, parce que pendant longtemps, la transition écologique, c'était des choses sans moyens, dans des petites salles, dans des choses pas visibles. Et nous, on travaille vraiment pour que ce soit très visible et très central.
Ton projet personnel, à présent, les pépites vertes, on parle d'une chaîne YouTube, tu n'hésites pas à me corriger et à me compléter au besoin. Donc une chaîne YouTube, ouais, que tu tiens sous le pseudo Claire l'éclair et qui, oui, recueille des témoignages d'anciennes étudiantes et d'anciens étudiants qui se sont lancés directement après leurs études dans une profession liée à la transition écologique. Quand est-ce que tu as commencé et pourquoi? J'imagine qu'il y a forcément un lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure quand tu nous disais que tu voulais vraiment partager ta conscience écologique.
Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, moi, je raconte mes expériences bénévole et professionnel sur tous mes réseaux sociaux depuis 7 ans. Et du coup, assez naturellement, il y a beaucoup de jeunes qui viennent m'écrire pour me demander des conseils, pour trouver un stage, pour trouver sa voie, etc. Donc moi, j'aime bien aider les gens. Donc en général, je leur répondais ou je les appelais pour les aider un peu. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais si je crée un média pour récapituler à la fois mes conseils, mais surtout les conseils des autres jeunes, parce qu'on est plein à se lancer sur ce créneau-là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer les pépites vertes pour mettre en lumière des parcours de jeunes engagés professionnellement dans la transition. On parle beaucoup des jeunes engagés dans le militantisme. On a beaucoup parlé de la génération Fridays for Future qui faisait la grève du climat le vendredi et tout le mouvement autour de Greta Thunberg. C'est super chouette. Mais souvent, ces jeunes-là, ils sont encore en études. Donc, l'étape d'après pour eux, c'est comment je trouve un job qui continue avec mes grèves pour le climat. Donc, le but, c'est de donner un peu des idées de métiers, de faire un peu des fiches métiers. Donc il y a à la fois la chaîne YouTube, mais il y a aussi le site lespépitesvertes.fr qui permet de référencer mais des métiers qui vont aller de l'ONG à la politique publique, en passant par l'associatif, la start-up, le grand groupe. Voilà, pour montrer qu'il n'y a pas une voie, mais qu'il y a plein d'options possibles quand on est jeune et qu'on a envie d'avoir un job qui a du sens en sortant de nos études.
Comment est-ce que tu as fait connaître ton projet des pépites vertes?
J'ai lancé les pépites vertes sur YouTube, auprès surtout de ma communauté de fans. J'ai lancé sur LinkedIn notamment parce qu'il y avait pas mal de gens qui me suivaient vu que je crée du contenu sur ces sujets-là. J'ai lancé d'ailleurs le premier épisode avec ma petite sœur qui, elle, a créé une école d'agroécologie voyageuse pour former les jeunes à l'agroécologie. Et du coup, j'ai eu aussi la chance d'être un peu couverte médiatiquement par les médias locaux. Et puis ensuite, au fur et à mesure, donc une fois que j'ai bien construit auprès de ma communauté la marque Les Pépites Vertes, j'ai créé les réseaux sociaux Les Pépites Vertes. Et là, pour ça, je me suis entourée d'une petite équipe de bénévoles qui m'aide à animer notre page LinkedIn, notre page Instagram. Et j'avoue, on aimerait bien lancer aussi le compte TikTok, parce que je pense que si on veut parler à des jeunes, il faut qu'on aille là où ils sont. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes consomment beaucoup de contenu court sur TikTok, donc on va essayer de mettre en lumière des métiers verts sur TikTok bientôt.
Et j'imagine aussi que ton travail chez ChangeDown, du coup, dans la communication, t'a aussi aidé à développer les pépites, en tout cas dans une forme de stratégie de communication.
Complètement, j'apprends tous les jours dans toutes mes expériences. J'ai appris un peu à l'école, mais quand même beaucoup sur le terrain. Ça m'a permis de bien comprendre tous les canaux à activer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la presse. Et du coup, ouais, j'utilise les compétences de mon métier pour mon projet personnel.
Tu as pu continuer à développer ce projet, à tourner tes vidéos pour les pépites ou recruter par l'intermédiaire du site depuis l'arrivée de la pandémie au mois de mars 2020, où ça a été un petit peu plus délicat que d'habitude.
J'ai eu l'idée l'été dernier, pendant un petit road trip toute seule avec mon sac à dos. Je suis rentrée en septembre, j'ai tourné la première vidéo, et puis le 30 septembre, la première vidéo était sur la chaîne YouTube. Et ensuite, j'ai eu le temps, juste avant le deuxième confinement, d'en tourner trois autres qui ont bien marché. Et puis, quand le confinement est arrivé, ben tous mes plans d'interviews se sont annulés. Donc du coup, c'est là que je me suis dit, bon, faut qu'on lance le site internet et qu'on lance une version rédactionnelle, parce que comme ça, j'aurais pas besoin de faire des vidéos et puis je pourrais en faire plus. Donc, je dirais qu'en novembre, on a lancé un grand appel à pépites, d'ailleurs qui est toujours accessible. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes un jeune engagé professionnellement dans la transition, vous pouvez remplir notre formulaire. Et ensuite, nous, avec l'équipe de bénévoles, on pourra potentiellement le publier sur la page netpépitesvertes.fr. Et ensuite, sur la partie vidéo, je me suis dit, bon, en vrai, c'est quand même les vidéos qui marchent bien. Comment je peux faire quand on est confiné pour continuer à créer du contenu vidéo? Donc là, j'ai essayé deux formats. Le premier, c'était de demander à des pépites de s'enregistrer et de m'envoyer pour que je fasse un montage. Donc, on a fait une vidéo océan parce que j'avais envie de sortir de Paris avec Hélène et Laura qui m'ont respectivement tourné des vidéos depuis Brest et Biarritz. Ils travaillent toutes les deux dans la protection de l'océan. L'une est chercheuse et l'autre travaille pour Surfrider. Et moi, j'ai fait le montage du coup dans ma chambre. Je me suis enregistrée comme si je les interviewais en vrai. Et puis, le deuxième format qu'on a testé, c'est un live. Sachant qu'on a eu beaucoup de lives cette année partout, sur tous les réseaux, donc il fallait que ce soit quelque chose d'assez innovant. Donc on a fait un beau live sur LinkedIn et sur YouTube avec trois pépites qui nous parlaient de l'entrepreneuriat et de pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de monter leurs entreprises pour la protection de la planète. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est que la pandémie et le confinement nous a forcés à tester des nouvelles choses, à être créatifs et puis à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Est-ce que en ce moment tu es en recherche de pépites un petit peu à des profils spécifiques ou travaillerais dans des entreprises ou des domaines particuliers?
Complètement. En fait, typiquement moi, il y a un biais avec moi, c'est que j'ai fait une grande école. Donc quand je fais un appel à pépites, il y a plus de profils de grandes écoles qui répondent. Or les jeunes étudiants en grandes écoles, on n'est pas du tout représentatif des étudiants de toute la France. Donc, on aimerait beaucoup avoir plus de jeunes qui ont fait des formations à Bac+3, des formations à Bac+5 en université et qui ont un parcours plutôt universitaire pour être bien représentatif de toutes les formations qui existent aujourd'hui. Et puis ensuite aussi, on aimerait bien pouvoir mettre en lumière des jeunes qui travaillent dans des grandes entreprises pour savoir comment est-ce que, quand on est un jeune talent à 23, 24, 25 ans, on peut arriver dans une grande boîte, enfin dans un grand groupe et dire « j'ai envie de vous accompagner sur votre transformation ». Donc des métiers en RSE, transformation, dans des grandes entreprises, ça c'est vraiment des profils qu'on recherche.
Quelles sont tes perspectives pour les années à venir? Est-ce que tu penses que tu pourrais aller chercher des pépites ailleurs qu'en France si ton projet arrive à avoir une portée internationale, en tout cas européenne?
En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, vraiment, déjà on aimerait bien se concentrer sur la France et toucher plus de lycéens. Parce que pour le moment, encore une fois, on touche nos cercles et moi je pense que c'est quand on a 18 ans qu'on est en train de passer le bac, qu'on est en train de remplir nos vœux sur Parcoursup, qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie quand on voit la catastrophe quand on regarde par la fenêtre. Donc surtout la prio pour nous, c'est de trouver des relais dans des lycées. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont profs ou qui sont délégués ou qui sont quoi que ce soit et qui peuvent nous aider à partager l'annuaire des pépites dans les lycées, ça c'est déjà une première chose sur laquelle on va mettre tous nos efforts cette année. La deuxième chose qu'on va faire, c'est essayer de créer du lien entre des pépites très jeunes, donc premier job, mais aussi des pépites qui sont, on les appelle les rock pépites, parce qu'elles sont un peu plus vieilles, de profil senior, pour pouvoir faire des échanges entre des profils qui ont 30, 40, 50 ans dans des entreprises et des juniors qui arrivent, pouvoir s'aider mutuellement à avancer professionnellement. En vrai, c'est peut-être pas très ambitieux, mais pour le moment, l'objectif, c'est de bien couvrir la France, bien diversifier toutes les zones géographiques qu'on couvre sur l'annuaire, et surtout de toucher les gens qui en ont besoin. Pour le moment, on reste à l'échelle des lycées français.
Et ça fait déjà beaucoup de choses, finalement, même si on reste dans un cadre français. On va terminer cet entretien avec tes avis plus personnels, voire même politiques, sur la transition écologique. À l'échelle nationale et européenne, on sent bien que les chefs d'État tentent de mettre la main à la pâte, même si les alertes sont données depuis longtemps. Je pense notamment au rapport du Club de Rome, qui date de 1972, qui prévenait déjà un dérèglement climatique. Mais ces dernières années, le phénomène s'est amplifié. On a eu la COP21 et celles qui ont suivi, des incitations aux entreprises pour être plus vertes, la Convention citoyenne pour le climat, etc. Est-ce que tu estimes que ça a suffisamment d'impact ?
Je pense qu'il faut, quand on donne son avis sur ces sujets-là, se rappeler que le monde et la société est très complexe, dans le sens où les différentes parties prenantes sur ces sujets-là doivent discuter ensemble. C'est-à-dire que ça ne doit pas uniquement venir, je pense, du gouvernement et de l'État, mais ça doit se faire en construction avec la société civile, que ce soit les entreprises qui prennent leurs responsabilités, que ce soit les consommateurs, s'ils en ont les moyens, prennent leurs responsabilités, les citoyens, les talents, voilà. Je pense que c'est quand même assez global. Après, côté politique et public, je pense qu'il faut du courage politique, voire de l'audace, pour pouvoir aller, entre guillemets, contre un système qui est jusqu'ici à très bien tourné, faire preuve de leadership, en fait, sur ces sujets-là. C'est un peu la question qui va arriver, là. Qui aura le leadership sur les décisions écologiques? Est-ce que ce sera l'Europe, est-ce que ce sera la France ou est-ce que ce sera les États-Unis, puisque on a un nouveau président des États-Unis qui potentiellement peut remettre à l'ordre du jour ces sujets sociopolitiques. Donc, j'ai pas un avis tranché pour dire c'est suffisant ou pas. Évidemment, ça ne l'est pas. Tout simplement, ça ne l'est pas. C'est trop dangereux. Le réchauffement climatique en tant que tel, puisque c'est le premier indicateur dont on parle quand on parle de transition écologique, arrive à grands pas. Il va y avoir, on parle de migration, mais il va y avoir des migrations écologiques. Et il y a déjà des migrations écologiques. Il y a déjà des populations qui souffrent du réchauffement climatique. D'ailleurs, on vient de conclure l'année la plus chaude. C'est quand même assez grave. Maintenant, il faut continuer le travail, que ce soit sur le côté législatif, que ce soit sur le côté politique étatique, mais aussi le faire, je dirais, en bonne intelligence avec les acteurs qui sont décideurs, à savoir les entreprises et aussi, j'ai envie de dire, les médias. C'est aussi aux médias de couvrir ces sujets-là et de raconter de nouveaux imaginaires et de montrer que c'est important. Mais c'est important, et j'aurais envie de rajouter ça en dernier, l'écologie ne se fera pas sans la transition, enfin la transition écologique ne se fera pas sans la transition sociale. Et on ne peut pas imposer une écologie, entre guillemets, de riche, dans le sens où il faut qu'on rende cette écologie accessible et qu'on invente la transition de manière inclusive. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention au public. C'est pour ça que je dis qu'on ne veut pas avoir que des représentants de grandes écoles. Il s'agira de pouvoir embarquer à toutes les échelles tous les acteurs de la société. Donc, c'est un peu une réponse bateau et utopiste, mais je pense que tout n'est pas tout noir ou tout blanc et qu'on a sincèrement chacun à chaque niveau et avec toutes nos casquettes un rôle à jouer quand on en a les moyens, encore une fois.
Ça, on l'aura bien compris, c'est à tout le monde de vraiment de s'y mettre, il n'y a pas d'acteur moins important que d'autres. Tu es plutôt pessimiste ou optimiste pour la mise en place de cette transition écologique?
On n'a plus le temps d'être pessimiste au vu des urgences, donc j'ai pas le temps moi d'être pessimiste, j'ai que le temps d'être optimiste, j'ai que le temps d'être en action et de me bouger avec les gens qui ont envie de se bouger et de pas perdre d'énergie avec les autres. Tout simplement. Donc, je suis très optimiste parce que je vois un mouvement de fond incroyable. Les sujets dont je parle aujourd'hui, s'ils avaient dû passer sur cette antenne il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça aurait pas du tout le même écho. Ça bouge peut-être pas assez vite, mais c'est à nous de faire en sorte que ça bouge plus vite. Et je pense qu'on a besoin d'une certaine presque naïveté utopiste pour pouvoir se lever le matin et se dire on va y arriver, parce que sinon, sincèrement, plus personne se lève pour aller ni au boulot, ni faire ses courses, si jamais on n'y croit pas.
Tu l'as mentionné tout à l'heure pendant l'entretien, les Fridays for Climate, donc c'était des manifestations de marches pour le climat, très suivies par les jeunes. À ton avis, est-ce que ce sont surtout les nouvelles générations qui peuvent impulser ce mouvement? Et ce serait pas, d'une certaine façon, le meilleur moyen de trancher avec l'image parfois péjorative d'une jeunesse fainéante et qui, comme je l'ai lu des dizaines de fois sur les réseaux sociaux, devrait plutôt retourner en cours qu'aller manifester pendant les heures d'école?
La manière dont on traite médiatiquement les jeunes, je pense que c'est historique. Hein. Il y a toujours une espèce de gap générationnel entre les décideurs qui sont au pouvoir ou les gens qui ont juste qui sont adultes entre guillemets et les jeunes. On dira toujours, je pense, que les jeunes sont des fainéants, ne font rien, ne s'engagent pas. Bon, récemment dans les médias, la manière dont les jeunes ont été couverts, c'était soit des organisateurs de Covid parties, donc voilà, la rave party, on en a entendu parler pendant je sais pas combien de temps. Pourquoi est-ce qu'on parle pas des jeunes qui font des trucs positifs? Je ne l'ai pas, je comprends pas. C'est d'ailleurs pour ça que récemment, on a carrément rédigé une tribune avec une centaine de signataires d'organisations de jeunesse pour dire en fait, on n'est pas victime, on n'est pas coupable. On est engagé. On est engagé dans la rue, on est engagé dans nos métiers, dans notre consommation. Et ça sert à rien de faire des généralités des jeunes complètement abrutis sur les réseaux sociaux. Donc oui, on est une force. La jeunesse a toujours été une force. Dans toutes les crises, on a toujours été une force. Donc je pense qu'il faut commencer à la considérer plus, à lui faire confiance. Et quand elle manifeste dans la rue le vendredi et qu'on lui dit « retourne apprendre », eh ben franchement, je trouve que c'est quand même oublier un peu, je pense, l'âge qu'on avait, enfin l'état d'esprit qu'on avait à 18 ans, parce que je suis certain que pas mal des personnes qui ont dit ça avaient eux aussi des rêves et des revendications à 15, 18, 25 ans, et que ce serait bien de pas oublier ça pour pouvoir faire un peu preuve de compassion, et surtout qu'on parle pas de compassion en mode ce serait gentil d'être gentil, mais on parle d'urgence en fait, et on parle d'une jeunesse qui est consciente des urgences parce qu'elle s'informe. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever aux réseaux sociaux grâce à des brutes, grâce à des « on est prêt ». Maintenant, on a l'information scientifique sur la catastrophe qui arrive. Donc maintenant qu'on sait, eh bien, faut qu'on se mette à l'action. Et je pense vraiment que cette génération est très éveillée, beaucoup plus éveillée que moi quand j'étais en terminale, puisque, comme on l'a dit au tout début de l'entretien, ça faisait pas partie des sujets que j'embrassais particulièrement à ce moment-là. Donc c'est génial que de plus en plus jeunes, les personnes se rendent compte et s'engagent. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on donne des outils et des moyens à la jeunesse de s'engager parce que ça suffit pas de nous faire manifester de nous laisser manifester tous les vendredis sans passer à l'action. Donc des moyens, ça veut aussi dire des moyens financiers pour qu'on puisse s'engager, du soutien et du soutien médiatique. Encore une fois, c'est génial du coup que des radios comme Radio Campus existent pour mettre en lumière les initiatives de la jeunesse. Mais je pense que des médias comme, des médias plus connus et plus nationaux devraient aussi réfléchir à inviter plus de jeunes sur leur plateau.
Merci Claire d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous donc sur le site des Pépites Vertes pour en savoir plus et pourquoi pas même bénéficier de cette initiative pour mettre en valeur et accélérer la transition écologique et pourquoi pas même trouver un boulot à la fin des études pour les étudiantes et étudiants qui nous écoutent. N'hésitez pas également à consulter la chaîne YouTube en tapant très simplement les Pépites Vertes ou Claire l'éclair dans la barre de recherche pour découvrir l'ensemble des entretiens réalisés avec les Pépites. Je te remercie Claire et je te dis à très bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Et merci à Léo pour cette interview. Vous retrouverez les liens vers le site et la chaîne de Claire les Pépites Vertes sur la page de cette émission. Ce soir, retrouvez dans quelques instants à 19h une nouvelle émission du 3615 Chill Out, votre émission lo-fi, abstract, hip-hop et autres trip-hop, suivie à 22h d'Electric Troubles. Notre émission rock et affiliée, Étienne vous propose ce soir un top des albums de 2020 qui n'ont pas encore été évoqués dans l'émission. Depuis son lancement, un beau programme qui vous attend. Et quant à nous, on se retrouve demain soir pour une nouvelle Covidienne et on sera en compagnie de Wax Taylor à l'occasion de son grand retour avec un nouvel album. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus. Portez-vous bien.